Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Dames en heren, van harte welkom hier in het ICC Gent op het programmacongres van het Vlaams Belang.
Bonjour. Avant même la tenue du prochain scrutin européen, c'est déjà l'heure des grandes tractations entre les différents partis d'extrême droite. Objectif, constituer les groupes politiques qui pèseront sur le prochain Parlement. Le parti belge, le Vlaams Belang, n'échappe pas à la tourmente. La formation d'extrême droite milite contre l'immigration et pour l'indépendance de la Flandre, car en Belgique, le scrutin sera à la fois régional, fédéral et européen. Le Vlaams Belang, quasi inexistant chez les francophones, est crédité de 27% d'intention de vote chez les néerlandophones. Notre correspondante Laure Broulard est allée sonder ses militants.
C'est une tradition pour le Vlaams Belang. Chaque 1er mai, le parti loue un parc d'attractions et invite ses adhérents à y célébrer la fête du travail. Nous sommes à Plopsaland, sur la côte belge, et des centaines de militants ont répondu au rendez-vous. Ils arborent des t-shirts avec le logo du parti ou des drapeaux avec un lion noir sur fond jaune, symbole du mouvement indépendantiste flamand depuis le 19e siècle. Ici, beaucoup sont des soutiens de longue date du Vlaams Belang et aujourd'hui, ils ont une obsession. L'immigration. Jorn, 21 ans, est venu avec un groupe d'amis.
Actuellement, je cherche un travail et c'est très difficile. Parfois, je vois que des migrants ou des étrangers ont les postes que je veux. Et ça me frustre. Donc la première chose que je veux, c'est que les migrants partent pour que j'aie un travail rapidement.
Dani, retraité, est candidat du Vlaams Belang sur les listes de sa commune pour le scrutin local prévu en octobre prochain. Il se fait l'écho des arguments populistes de son parti sur la politique migratoire européenne.
Chaque pays doit pouvoir décider du nombre d'étrangers qu'il souhaite accepter. Quand on est plein, on est plein. Il faut voter aux européennes. Ici, on dit que les dirigeants à Bruxelles sont dans une tour d'ivoire. Mais on veut qu'ils se rendent compte des volontés du peuple, des problèmes du peuple. Et je pense que c'est la même chose partout.
Les positions anti-étrangers sont donc pleinement assumées. Fondé en 1979, l'ancêtre du Vlaams Belang, le Vlaams Blok, avait été dissous en 2004 suite à une condamnation pour xénophobie. Depuis, le parti a changé de nom et rejette toute accusation de racisme. Mais son programme reste le même. Préférence nationale, référence à la théorie raciste et complotiste du grand remplacement et toujours sa revendication historique, l'indépendance de la Flandre, qui fait partie des régions les plus riches d'Europe. Patientant dans la file pour une attraction, David Kleiss estime que les Flamands payent trop pour la région wallonne et les francophones.
Il y a beaucoup d'argent qui va de l'autre côté de la Belgique. Et à cause de ça, on dit stop, c'est assez, chacun chez soi. Et quand vous avez 100 euros, vous dépensez 100 euros. Vous n'en dépensez pas 200 en demandant aux autres de contribuer.
Un peu plus loin, dans la salle de spectacle, l'invité d'honneur de la journée grimpe sur le podium. Tom van Grieken, 37 ans, est le président du Vlaams Belang et le visage de sa dédiabolisation. Plus jeune, il était connu pour ses outrances, comme lorsqu'il a amené des saucisses de porc à un barbecue halal organisé par une école en 2012. Mais depuis qu'il a pris la tête du parti en 2014, ce publicitaire de formation a lissé son image et poussé le Vlaams Belang à investir les réseaux sociaux pour attirer la jeunesse. Aujourd'hui, il espère faire de sa formation le premier parti flamand et placer un troisième député au Parlement européen, où il siège avec le groupe Identité et Démocratie, dans lequel il est pleinement intégré. Benjamin Biard, politologue.
Il est membre intégrant du groupe ID, il était du groupe ENL, Europe des Nations et des Libertés, qui avait été fondé en juin 2015. Il en était même un des fondateurs, en réalité, avec le PVV de Geert Wilders aux Pays-Bas, avec le FN à l'époque de Marine Le Pen en France, avec la Lega de Matteo Salvini en Italie. D'ailleurs, pas rare de voir la présence de l'un ou de l'autre dans un congrès organisé par un de leurs partis, frère ou cousin, selon l'appellation retenue. Mais toujours est-il qu'il y a des liens très forts entre eux parce qu'ils partagent un fond idéologique commun. Et leur positionnement par rapport à l'Union européenne, globalement, est partagé. Certains sont plus eurosceptiques, d'autres plutôt europhobes. Toujours est-il qu'ils partagent une certaine vision négative de l'Union européenne et surtout des institutions qui la caractérisent.
Malgré plusieurs percées électorales depuis les années 90, le Vlaams Belang n'a jamais exercé le pouvoir au niveau national. C'est le résultat d'un cordon sanitaire politique appliqué par les présidents des autres partis belges qui refusent de gouverner avec l'extrême droite. Un cordon sanitaire qui pourrait cependant être remis en question dans les prochains mois en fonction des résultats électoraux du Vlaams Belang.
La loi sur les agents étrangers toujours au cœur des divisions et des manifestations en Géorgie. Dans ce petit pays du Caucase, le Parlement a prévu de passer cette législation en force sans tenir compte du veto de la présidente Salomé Zourabichvili. Dans ce cas, il n'y aura plus de recours possible. La loi impose aux ONG recevant plus de 20% de leur financement de l'étranger de s'enregistrer en tant qu'organisation poursuivant les intérêts d'une puissance étrangère avec à la clé un contrôle administratif. Notre envoyé spécial en Géorgie, Daniel Valo, a suivi durant une semaine ces dizaines de milliers de manifestants qui s'opposent à cette loi. Souvent très jeunes, ils dénoncent l'influence de la Russie et disent leur détermination à défendre la démocratie malgré les intimidations.
Cela fait plusieurs nuits d'affilée qu'ils manifestent devant le Parlement géorgien. Tato fait partie de ces étudiants qui dénoncent les conséquences de cette loi. Une loi qu'il estime calquée sur celle adoptée en 2012 par la Russie. Un retour en arrière pour Tato qui, lui, rêve d'Europe, de droits de l'homme et de liberté.
J'ai pas envie de vivre les années soviétiques qu'on a vécues, qui nous a éloigné la civilisation européenne, qui nous a éloigné de la démocratie, etc. J'ai pas envie de ça. Et aussi, pourquoi j'ai peur? J'ai pas envie que ça se passe des choses pareilles comme on voit en Russie, comment ils se comportent avec les politiciens comme Navalny, par exemple, comment il a été tué et comment les gens sont traités dans ce pays-là. J'ai pas envie de vivre ça.
Dans la foule des manifestants, une écrasante majorité de jeunes et beaucoup d'étudiants nés au début des années 2000. Ces jeunes géorgiens ont appris l'anglais et non pas le russe. Ils maîtrisent parfaitement les réseaux sociaux et contrairement à leurs parents, ils ne craignent pas de se mobiliser.
La génération de mes parents et la génération de mes grands-parents, ils ont vécu, ils ont grandi à l'Union soviétique. Oui, ils ne savaient pas comment s'exprimer. Mais par contre, nous, notre génération, on est nés dans une Géorgie libre et on sait c'est quoi la liberté. On sait qu'est-ce qu'on veut et comment on veut.
Pour comprendre les inquiétudes liées à cette loi, nous nous rendons dans les locaux d'un média indépendant dont le budget est en partie financé par des fondations américaines. Publica est réputé pour la fiabilité de ses informations et pour le travail de ses journalistes. Mais avec la loi sur les influences étrangères, ce média pourrait tout simplement disparaître. C'est la crainte en tout cas de Lika Zakashvili, sa rédactrice en chef.
Ça va tuer la média indépendante dans le pays. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que sans raison, l'État peut venir dans notre organisation, dans le média. Ils peuvent prendre les informations personnelles et ils peuvent nous forcer d'arrêter de travailler. Et deuxième chose qui est importante aussi, c'est la stigmatisation qu'ils vont mettre sur nous.
Les journalistes géorgiens s'inquiètent déjà des pressions exercées à leur encontre par le pouvoir en place, des pressions qui n'ont cessé de croître ces dernières semaines contre les journalistes, mais aussi contre les opposants à la loi, qu'ils soient étudiants ou professeurs d'université, comme Jia Japaridze, agressé le 8 mai dernier devant son domicile.
J'ai essayé de me défendre et je suis tombé. Ils m'ont frappé à coups de pied et de batte de baseball. Ça a duré une minute, peut-être plus. En me frappant, l'un des agresseurs me disait « Alors, tu es contre la loi? Pourquoi tu es contre la loi ?» Je suis sûr à 300% que c'est le parti au pouvoir qui est derrière ça.
En moins de 10 jours, plusieurs personnalités opposées à la loi ont ainsi été agressées en pleine rue et des dizaines d'autres ont été menacées ou harcelées.
Ils m'ont appelé en pleine nuit. Ils m'ont dit « N'organise pas la manif, sinon on va te faire très mal, à toi et à ta famille. »
Théona fait partie de ces militants que les autorités tente par tous les moyens d'intimider. Elle ne vit pas à Tbilissi, mais à Gori, une petite ville de 50 000 habitants située à 80 km environ de la capitale géorgienne. Sur son téléphone portable, Théona nous montre les images des trois manifestations organisées à Gori depuis le mois d'avril. Un motif de fierté dans une ville où il est très difficile de mobiliser.
Les étudiants ont peur d'être suspendus. Dans les entreprises, les gens ont peur de perdre leur emploi, car les patrons ici sont pro-russes. Et du coup, ils n'osent pas manifester.
À Gori, tout le monde ne voit pas d'un bon œil ses opposants à la loi sur les influences étrangères. Guliko et Sveyad, l'une retraitée, l'autre prof de karaté, approuve pleinement cette législation.
Il fallait le faire même avant. Il fallait le faire bien avant parce qu'on doit savoir le financement, d'où ça vient et pourquoi ça vient.
Ces ONG, si elles font du bien, pourquoi elles se cachent? Mais si elles font de mauvaises choses, si elles essaient de déstabiliser le gouvernement, bien sûr qu'il faut le dire.
Un discours inaudible pour les manifestants qui, tous les soirs, se retrouvent devant le Parlement géorgien. Vote après vote, malgré la détermination des autorités à faire passer la loi, les manifestants continuent de se mobiliser et refusent de baisser les bras.
J'ai un sentiment de combat. Je sais que ces expériences de crise, ça va nous, quelque part, former et forger. Et c'est comme ça qu'on va devenir petit à petit, en se renforçant, une société européenne. À l'époque de ma jeunesse, on était infantile, très enfantin, parce qu'on ne savait pas. On ne savait pas la langue de l'Europe, on ne savait pas la langue occidentale. Mais là, on le sait, parce que nous, on a de la génération Z qui parle la langue occidentale. Ils savent les technologies, ils ont grandi. Et là, ils ne peuvent jamais arrêter ces gens-là.
Pour de nombreux opposants à la loi contre les influences étrangères, la prochaine bataille se jouera sans doute dans les urnes, avec les élections législatives d'octobre prochain, des élections qui s'annoncent d'ores et déjà décisives pour l'avenir de la Géorgie.
Ils ont 20 ans et votent pour la première fois aux élections européennes. C'est le thème de notre série avec le média en ligne Enter. En Croatie, membre de l'Union européenne depuis plus de 10 ans, la question de l'inflation, du pouvoir d'achat et du départ de nombreux diplômés ailleurs en Europe est en tête des préoccupations du jeune Frano. On l'écoute.
Je m'appelle Frano, je travaille actuellement comme guide à Split, plus précisément à Stobreč, une plage qui se prépare pour la saison. L'État croate s'appuie largement sur le tourisme. La situation en Croatie est un peu étrange car dans le secteur touristique, certaines personnes peuvent mieux gagner leur vie que les médecins et que certains architectes diplômés. Je pense qu'environ 20% du PIB provient du tourisme, ce qui bien entendu n'est pas bon car tout dépend d'une seule activité. L'inflation s'est abattue sur nous ainsi que sur le monde entier, mais on a aussi dû faire face à un autre point non négligeable, l'entrée dans la zone euro en 2023. Mais de toute façon, je pense que les Croates doivent faire face à l'inflation depuis la création de l'État. Nous y sommes habitués en quelque sorte. Beaucoup diront qu'il y a peut-être du surtourisme, que l'on se dirige trop rapidement dans cette direction. Pour ma part, je ne pense pas que cela nous fasse du mal, du moins pas encore. D'un point de vue financier, c'est une bonne chose pour nous. Et les aspects négatifs ne sont pas énormes, sauf peut-être pour les habitants du centre-ville qui sont réveillés dans la nuit par les touristes ivres. Mais à part ça, je ne vois aucune conséquence négative pour le moment.
Un portrait à retrouver avec beaucoup d'autres sur les réseaux sociaux avec Enter. It's a brand new word for dramatic design of the future. Les élections législatives européennes en Bulgarie, où la crise politique s'installe avec un sixième scrutin en 3 ans, mais aussi le sport comme instrument de géopolitique. C'est ce dont on va parler avec vous, Grégory Réco, responsable des pages internationales du site The Conversation, avec lequel nous sommes partenaires. Grégory, l'Ukraine et la Russie ont bien compris l'importance des performances sportives et des JO, et ce, dès le début de la guerre en Ukraine.
Alors on s'en souvient, dès février 2022, au moment de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine, Les grands organismes sportifs internationaux comme le CIO, l'UEFA et la FIFA ont décidé très rapidement de suspendre ou voire d'exclure la Russie du monde du sport. Et depuis, donc, les sélections nationales russes, toutes les équipes nationales ne peuvent plus participer aux grandes compétitions internationales. En revanche, les athlètes à titre individuel, par exemple les joueurs et joueuses de tennis, peuvent continuer à jouer à condition de ne pas afficher leur drapeau. Et par exemple, aux Jeux de Paris, il devrait y avoir une quarantaine de sportifs russes en tout, contre environ 300 aux précédents Jeux Olympiques. Et cette quarantaine de sportifs seront engagés uniquement dans les sports individuels et ils défileront et recevront éventuellement leurs médailles sous bannière neutre. Alors évidemment, c'est une situation qui ne convient pas au régime de Vladimir Poutine, qui a cherché très vite à réagir. Et il a réagi en puisant dans le passé soviétique, puisqu'il a repensé à l'époque du boycott occidental des Jeux Olympiques de Moscou en 1980. Et comme à l'époque, la Russie s'efforce aujourd'hui de créer d'autres compétitions auxquelles elle pourrait participer aux côtés de pays qui lui sont proches. Alors pour l'instant, sans grand succès, même si l'équipe nationale de russe de football, par exemple, elle a pu disputer quelques matchs amicaux dernièrement, par exemple contre la Biélorussie, la Serbie ou encore Cuba, mais on est loin de ce monde alternatif du sport que la Russie appelle de ses voeux.
Ce qui est intéressant, c'est que les chercheurs ont aussi exploré la situation côté ukrainien et on voit aussi que le sport est très politique de ce côté-ci de la guerre.
Absolument. Dès le début de la guerre, Volodymyr Zelensky et son entourage ont compris que les sportifs étaient de formidables ambassadeurs de la cause ukrainienne. C'est d'ailleurs pourquoi ils ont été déchargés de leurs obligations militaires. Et parce qu'on estime à Kiev que plutôt que les envoyer au front, il vaut mieux faire en sorte qu'ils puissent utiliser cette immense caisse de résonance que constitue le sport international pour porter le message qu'il faut soutenir leur pays. Et les sportifs ukrainiens ne manquent pas une occasion d'en appeler au grand public quand ils se produisent partout dans le monde. On l'a vu récemment avec par exemple l'équipe nationale de football qui participera à l'Euro cet été, aussi avec des joueuses de tennis très engagées comme la numéro 1 ukrainienne Elina Svitolina, ou tout récemment avec le boxeur Oleksandr Usyk qui vient de remporter le titre unifié des poids lourds, et un titre qu'il a dédié à son pays en guerre. Et évidemment, il a paradé avec le drapeau ukrainien après sa victoire.
Alors on a parlé sport et Jeux Olympiques. L'autre grande échéance qui nous intéresse, ce sont bien sûr les élections européennes du 9 juin. Et on part pour la Bulgarie, puisque ce sera un double scrutin, à la fois européen et législatif, avec toujours la Russie en toile de fond.
Les 26 autres pays membres s'apprêtent à voter aux élections européennes, mais c'est un scrutin qui est un petit peu éclipsé en Bulgarie par le fait que le même jour se tiennent les élections législatives. Et ce seront, tenez-vous bien, les 6e législatives en 3 ans en Bulgarie. Alors comment expliquer cette incroyable instabilité gouvernementale ? La crise actuelle, elle a été ouverte en 2020 avec le dévoilement de plusieurs affaires de corruption au sommet de l'État. Et depuis, c'est un enchaînement d'élections dont aucun vainqueur ne sort en disposant de la majorité absolue. Résultat, à chaque fois, se créent des coalitions extrêmement fragiles et qui ne tiennent jamais bien longtemps. Mais il y a au cœur de ces coalitions toujours un acteur central, le GERB. Et en vérité, c'est le parti du personnage central de la politique bulgare, Boyko Borisov, célèbre pour être un ancien garde du corps, un ancien maire de Sofia, et surtout, il a été Premier ministre pendant 11 ans au total sur les 15 dernières années. Bien, Borisov, à la tête de son parti, qui est un parti de droite, c'est un parti qui officiellement est pro-occidental, mais qui sait à l'occasion trouver aussi langue avec Moscou, notamment sur les questions énergétiques. Et donc c'est surtout un parti qui est extrêmement habile, qui a tissé un réseau d'élus et d'hommes d'affaires partout dans le pays, qui sait toujours sceller les bonnes alliances pour rester au pouvoir, même quand il est minoritaire. Toute cette instabilité et le fait que les coalitions s'enchaînent en permanence avec des partis de droite et de gauche, évidemment, comme ailleurs parfois, ça favorise la montée de l'extrême droite, une extrême droite très clairement pro-russe et qui est conduite par un leader du nom de Kostadin Kostadinov, qui est connu notamment, entre autres joyeusetés, pour avoir qualifié les Roms de parasites et de, je cite, « vermine non humaine qui n'a pas sa place en Bulgarie ». Kostadinov est vraiment très hostile à l'Ukraine, très ouvertement pro-Poutine, et la Russie regarde avec beaucoup d'attention cette campagne en Bulgarie, celle des législatives beaucoup plus que celle des européennes.
Merci Grégory Réco, et ces articles d'universitaires et bien d'autres sont à retrouver gratuitement sur le site de theconversation.com. Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site et sur l'application Pure Radio. À demain.